Certains propos de ce programme ne sont pas adaptés aux jeunes auditeurs. Bienvenue dans le jeudi sexy avec le docteur Nastia.
Moi, j'ai traumatisé ça.
Sorry, les amis, j'espère que vous allez bien ce matin.
Ne sont pas adaptés aux jeunes auditeurs. Bienvenue dans le jeudi sexy avec le docteur Nastia.
Aujourd'hui, nous allons parler du cunnilingus entre tabou, intimité et plaisir féminin. Il y a des pratiques dont on parle rarement avec maturité. Le cunnilingus en fait partie. Entre fantasmes, gênes et idées reçues et silences, beaucoup de couples n'osent pas aborder le sujet clairement. Ce matin, on va en parler sans vulgarité, sans provocation, mais avec intelligence. Qu'est-ce que le cunnilingus représente dans la vie sexuelle d'une femme ? Pourquoi est-il parfois mal compris ? Et quelle est sa place dans le plaisir féminin ? On en parle ce matin. En sexothérapie, docteur, comment définit-on le cunnilingus ? On commence par ces définitions simples.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Je vous en passe à bien.
Bonjour.
Je vais aller dans la continuité de...
Bonjour, docteur.
Bonjour, John. Bonjour, Orphée. Bonjour, bonjour Tina. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs. Que les auditeurs ne captent pas ce qui s'est passé. On était un peu loin dans les
cunnilingus. Alors, docteur, je demandais justement comment est-ce qu'on définit le cunnilingus ?
Stimulation de la zone clitoridienne, de la zone vulvaire en général. Le cunnilingus, c'est pas seulement, j'avais envie de dire quoi ? La stimulation du clitoris, c'est-à-dire que c'est vraiment le sexe oral, plutôt chez la femme. Différent de la fellation qui est la pratique du sexe oral chez l'homme. Chez la femme, c'est sexe oral. Le cunnilingus, c'est sexe oral chez la femme. Ah, stimulation de ses zones génitales.
Dans vos consultations, est-ce que la pratique est si fréquente que ça ?
Oui et non. Parce qu'il y en a qui, j'ai envie de dire quoi, qui émettent le besoin d'avoir cette pratique-là et les partenaires s'y opposent. Il y en a aussi qui avouent que c'est une des pratiques qui les aide à atteindre l'orgasme.
Justement, mais ça reste quand même un sujet extrêmement sensible. À DF, on avait fait un sondage sur les pratiques sexuelles. Pourquoi c'est le cas, donc ?
Sensible chez les hommes, oui. Parce que y a des, chaque personne a ses phobies. Il y a des gens qui ne conçoivent pas déjà que l'acte sexuel, on puisse varier certaines choses. Parce que pour eux, l'acte sexuel a été conçu d'une certaine manière et ça doit rester comme ça. Donc, surtout ici chez nous en Afrique, ce qu'on apporte après, ce sont des modifications qui viennent de chez les Blancs. Donc, mais par contre, dans une ancienne culture, je crois, rwandaise, on a une pratique qu'on appelle le kunyatsa, je pense que c'est ça, où on apprend justement à la femme l'exploration de son orgasme féminin à travers justement la stimulation de ses zones vulvaires par une autre part, les mamans, les anciennes.
Docteur, parlons justement de cette stimulation externe. Pourquoi certaines femmes sont plus sensibles que d'autres ?
Parce que chacun a ses zones érogènes. C'est comme on dit toujours, il faut toujours connaître son corps. Il y a des femmes qui ne sont pas très sensibles au cunnilingus, hein, c'est-à-dire ça ne sert à rien, tu vas lui faire ça, elle va se sentir plutôt nauséabonde. Elle veut juste que tu passes directement à la pénétration. C'est un profil. Ouais. C'est un profil sexuel.
Justement, en parlant de cunnilingus, je rappelle ce sujet ce matin. Est-ce que le plaisir féminin est plus accessible via une stimulation externe adaptée, bien sûr ? C'est la sensation qu'on a, que la stimulation externe est plus concourt plus à l'orgasme.
Non, ce sont les préliminaires, c'est la préparation du corps. C'est-à-dire que tu peux ne pas avoir la même amplitude en matière de plaisir après des préliminaires, mais par contre, le préliminaire seul, c'est-à-dire le cunnilingus, ne suffit pas à te faire atteindre le septième ciel.
Ouais.
Il faut qu'il y ait eu cette préparation préalable pour te chauffer, comme on dit souvent. Ensuite, pour que ça arrive, pour que lors de la pénétration, les sensations soient intenses. Donc, c'est pas quelque chose de... Voilà, donc j'ai envie de dire, c'est une étape. On peut dire ça comme ça. Tout comme il y a également des femmes chez qui le sexe oral, la pratique du sexe oral, ça suffit. C'est-à-dire qu'après ça, voilà, elle n'a plus forcément besoin de la pénétration.
D'accord, ok, bah c'est noté. Je rappelle, les amis, ce matin, on parle de cunnilingus. Pourquoi autant d'hommes, docteurs, pensent savoir faire un cunnilingus, alors que peu de femmes, au contraire, disent en être vraiment satisfaites. Pourquoi il y a ce contraste entre les hommes qui eux disent que moi je sais le faire, et les femmes, très peu de femmes qui disent on est satisfaites. Il y a beaucoup de femmes qui ont été traumatisées par la première ou la deuxième fois.
Les hommes ont déjà dit qu'ils ne savent pas faire quoi. C'est ça le plus gros problème. Moi, je me prends des balles tout le temps parce que je ne sais pas s'il y a un milieu plus hypocrite en matière de discussion sur la virilité que le milieu masculin.
Ouais.
Tu vois, quand tu discutes avec un homme, tu veux lui expliquer un truc. Il sait déjà tout faire parce que je pense que c'est aussi une question d'ego. C'est la honte. Quand ils sont. Ils disent même ça à qui qu'ils savent faire. Entre eux, les hommes, non. Parfois, tu es en train de dire à quelqu'un qui, lui, il veut même apprendre de toi. Tu lui dis que tu as déjà vivre de Dieu aussi, oui, mais il veut que tu parles. Toi aussi, tu dis que tu connais, alors que même toi-même, tu ne connais pas. Toi-même, tu n'es même pas sûr que ça donne. Donc, je pense que. Et c'est pour ça que je pense que nos émissions choquent aussi beaucoup. Mmh. C'est parce que ce qui est dit à l'intérieur, c'est la vérité. C'est pas, on joue pas, c'est pas un film. On n'est pas de masque pour dire certaines choses. On dit ce qui est. On dit parce que les gens aimeraient bien entendre. Je sais pas. Il y a le milieu en matière de discussion. Il y a deux choses que moi j'ai constatées depuis que je travaille les couples et les personnes. C'est que chez les femmes mentent sur la qualité de plaisir qu'elles ont lors de leur rapport, et les hommes mentent sur leur performance. Tu vois un peu. C'est le même gars qui sort du groupe là tout à l'heure qui a dit gars, j'ai léché la gueule, elle a mangé. C'était. T'as dit qu'elle a crié jusqu'à. Qui vient me dire en constatation de Tenassa, comment elle peut faire pour satisfaire ma femme? Mais moi, je suis tenue par le secret professionnel. Je vois le gars vous mentir comme ça, dit ah, mon patient, tu es un peu fort.
Justement, docteur, quand vous essayez de classer la sexualité, ou du moins les procès de sexualité et les différentes pratiques, est-ce que le cunnilingus est considéré comme un bonus dans la sexualité ou c'est vraiment un élément central chez beaucoup de femmes du plaisir?
C'est un élément, je ne vais pas dire central, mais c'est nécessaire. Mm. Tu vois, c'est nécessaire mais pas central parce que la sexualité varie aussi en fonction des... Je te prends un exemple. Si vous êtes en couple, ça fait 10 ans que vous êtes ensemble et 10 ans vous faites du cunnilingus, ça devient vulgaire. Les sensations ne sont plus pareilles. Tu vois un peu. Mm. Donc, il faut varier. Tu peux ne pas forcément pratiquer le cuni, mais le fait de changer justement la pratique. Parce que si on dit c'est central, c'est que tu vas avoir un couple pendant 20 ans. Le gars va seulement voir qu'on laisse ses seins, on laisse sa bouche. On fait seulement le cuni et on pénètre. Tu vois un peu. Donc c'est pas central, mais c'est nécessaire. Et c'est vraiment, il faut comprendre, communiquer, comprendre les corps, comprendre les émotions, comprendre les périodes. Tu peux pas faire le cuni par. Je voulais dire parler avec. Je ne peux pas conseiller.
Est-ce qu'on peut être un bon amant, on parlait du sexe oral tout à l'heure, sans savoir donner du plaisir oral?
Ça dépend de qui tu as en face de toi. Il y a les gosses sado, non. Elles n'ont pas besoin que tu la lèches. Mmh. Elle veut que tu l'attaches, que tu la battes. Elle veut pas. C'est quoi? Pourquoi tu me caresses avec ta langue? Mmh. Elle n'aime pas les caresses. Ça dépend des profils. On parle toujours de sexualité en matière de profil. On ne peut pas globaliser, généraliser. Maintenant, si tu as des femmes qui aiment bien les stimulations externes et tout, douces, parce qu'il y a des stimulations externes douloureuses, voilà, tu dois savoir pouvoir faire un cuni. Et également, d'autres stimulations aussi. C'est-à-dire que pas trop rester concentré sur le cuni. Il faut savoir que le cuni, ça se pratique avec la langue. Pas avec les dents.
Justement, on parle de technique, justement.
Tu n'as dit merci. Ouais.
Est-ce qu'on doit se concentrer uniquement sur le clitoris quand on passe la langue, non, ou bien il faut explorer autre chose?
Toute la zone vulvaire, c'est une zone érogène. La zone vulvaire, c'est une zone érogène. Partant des grandes lèvres aux petites lèvres, tout comme au clitoris, la partie au-dessus du clitoris, c'est-à-dire la partie qui joint les deux grandes lèvres, ce sont des zones érogènes. C'est-à-dire que parfois, j'ai une personne qui m'a dit un jour qu'un gars lui a sucé le clitoris jusqu'à ça fait comme le glaçon. Donc, c'était comme s'il a anesthésié parce que le gars était concentré sur ça, mon frère. C'est comment? C'est quoi?
Aspiman.
Aspiman, vraiment, maman. Ventousman. Donc, en fait.
Alaska ne peut pas rendre ça glacé comme ça.
Non, en fait, il y a. Voilà, il y a les grandes lèvres, il y a les petites lèvres, il y a le clito. En fait, le sexe oral de la voie vaginale, c'est vraiment la voie vulvaire, pardon, c'est vraiment toute la petite pièce là.
Donc, ce n'est pas forcément se concentrer,
non,
passer la langue sur le clito.
Non,
est-ce que c'est une question de rythme, de pression ou de constance? quand on fait le cunnilingus.
Un peu de tout, mais il faut toujours observer la partenaire, toujours.
Justement, j'allais demander, est-ce qu'on demande les indications ou est-ce qu'on observe, on touche, est-ce qu'on va ressentir?
Il faut observer, il y a des gars qui entrent là-bas dans la foufoune, ils calent dans la foufoune, ils ne lèvent jamais les yeux pour voir si ce qu'il est en train de faire est intéressant. Il faut observer la partenaire, il faut la regarder, il faut analyser ses gestes. Il y a des actes que quand tu vas poser, elle va réagir certaines manières, c'est que là c'est bon. Maintenant, il y a d'autres réactions qu'elle aura, ça veut dire peut-être qu'ils voudront montrer qu'elle a mal. Donc, il faudra changer peut-être le style de mouvement. Ça peut partir de circulaire au lapage. Ça peut être, voilà, tu peux changer. Tu n'es d'accord. Tu peux changer. Il faut changer l'orientation et le style, la qualité du mouvement. C'est-à-dire que si tu as l'habitude de faire de manière circulaire et que ça ne prend pas, essaie de laper. Quand tu lapes et que tu sens que ça... Voilà, tu essayes d'aller au niveau des grandes lèvres parce que parfois, ça bouge un peu.
Donc, il faut bouger, varier les mouvements de la langue.
Varier les mouvements de la langue et surtout observer la partenaire, observer ses réactions.
Observer ou sentir. Parce que quand on fait le cuni, on peut passer la main sur le thorax qui est un endroit d'expression des émotions.
Des contractions.
Et ressentir les respirations, sentir comment le début de la relation, de truc.
Oui, chef.
Moi, j'ai une question. Excuse-moi. Dans tes séances de consultation ou bien de traitement, quand tu as été patient, est-ce qu'il y a des moments où il y a des cas pratiques où il y a un couple, tu vas dire à l'homme fait comme ça ou alors
à la femme devant, à la femme est là.
Oui, tu vois, ou bien parce que je vois souvent des tutos. Moi, j'ai une femme que j'ai vue en tutoriel sur internet qui faisait des séances pratiques de comment il faut faire le cuni avec un homme qu'elle utilisait comme cobaye.
Ah, lui, il
faisait la langue. Non, il montrait avec sa langue comment on fait. Est-ce que techniquement, en tant que technicienne, est-ce que dans les séances, tu expliques comme ça en profondeur avec
Bon, c'est vrai que je pense que la dame que tu as vue, c'était une afro-américaine.
Oui, merci. C'était une afro-américaine.
Elle est en Amérique, elle est protégée par la loi.
Mais en privé, quand même, on le fait.
Non, ça peut dire que quand les citoyens américains partent derrière, ils savent que tu dégages tes mentoles. Gars, mon frère, on est au Cameroun.
Il faut les tutos comme ça ici.
En fait, moi, ce que je fais pour les couples, c'est de faire des petits tips personnalisés. C'est-à-dire, je fais des bouquins, vous m'expliquez, tu vois, vous m'expliquez votre problème de sexualité et tout. La dame m'explique en aparté ce qui ne marche pas, le monsieur m'explique comment il fait. Et parfois, le monsieur m'explique ce qui ne marche pas. Je vous fais un livre dédicacé spécial pour votre couple. Tu vois ce que je fais? Où j'explique terre à terre ce qui ne va pas, comment tu dois orienter. Ça fait que le monsieur lit ça, la dame lit pour elle. Et puis c'est comme ça que je fonctionne. Mais je ne fais pas de cours pratiques. Je ne fais pas que, bon, en séance privée,
mettez-vous
à cheval ici, on tape le noyau comme ça.
Mais ça passe bien.
Parce que, en fait, tu vois que déjà, le fait qu'on s'asseye là pour parler à la radio, ça viole l'esprit de certaines personnes. Combien de fois est-ce qu'en séance privée, on n'est pas encore préparé à ça, tu vois un peu, on n'est pas encore préparé. À un moment donné, moi, je voulais faire des ateliers pratiques de dames et tout. Ça viole un peu la pudeur quand même. On est très pudique encore chez nous. Donc, ça fait que déjà, on est encore dans la préparation de l'esprit pour vraiment accepter ce type de science-là. Donc, ça fait que pour éviter de violer la pudeur, parce qu'une femme peut se sentir mal à l'aise que tu dis à son mari que tout est la langue. Il y a même une dame qui m'a dit une fois à thérapie qu'une fois elle était partie chez une thérapeute canadienne, son mari est tombé. Non, la thérapeute canadienne est tombée amoureuse de son mari, elle n'a pas pu jamais chez la thérapeute. Voilà.
Docteur, justement, revenons à la technique du cunnilingus, qui est le sujet de ce jour. Pourquoi certains hommes, docteur, arrêtent dès qu'ils sentent que la partenaire approche de l'orgasme? Quand on sent que les cuisses se contractent, quand elle veut nous étouffer dans les cuisses là-bas.
Ils ont peur qu'on pisse dans leur bouche. C'est la seule peur. Je pense que c'est ça. Ils ne veulent pas boire. Buvez.
Du petit lait.
Alors, entrons un peu dans la dimension psychologique, docteur. Pourquoi certaines femmes ont du mal à se laisser aller pendant le cunnilingus?
Je parlais de pudeur tout à l'heure. Il faut savoir que le cuni, c'est une position où tu as l'impression qu'on on voit ton intérieur.
C'est pas une impression.
De toutes les façons, le gars peut ne même pas te regarder ton ouverture. Il peut être concentré vraiment sur ta vulve. Tu vois un peu. Mais toi, déjà, tu peux être malade. Si tu as quelqu'un qui aime beaucoup la maîtrise de soi, il faut beaucoup de relaxation pour savoir que tu es couché et quelqu'un a accès en fait à tes parties intimes qui te voit de l'intérieur. Il y a le stress. Est-ce que ça, c'est malodorant? Est-ce que ça sent pas bon? Ça, c'est les préoccupations des femmes souvent.
C'est pour ça qu'il faut toujours laver.
Voilà, il faut toujours laver. Voilà, merci. Je dis toujours ça parce qu'il y a des gens au bureau.
Mais ça tue la spontanéité.
Non, il n'y a pas de spontanéité parce que
Si tu veux le cunis.
Parce que ça peut même dégoûter le gars. Imagine, tu rentres tous les jours chez toi avec une sensation à la langue de tu sais pas.
Mm-hmm. Tu vois un peu, non?
Voilà, donc maintenant il y a ça, il y a la peur de il y a le stress lié par exemple à l'odeur du vagin. Mm-hmm. Il y a aussi voilà l'aspect physique de son vagin. Est-ce que ce qu'il voit est beau? Mm-hmm. Est-ce que c'est beau comme ce qu'il a l'habitude de voir? Est-ce que ça, John dit que moi il m'envoie, est-ce que c'est beau par
exemple? Ah non, j'aime les belles vulves, hein. Je suis friand de belles vulves. Non. Effectivement, ça peut être un blocus pour moi.
Ta belle famille ne t'écoute pas à la radio.
On fait la radio. Moi, ça peut être un blocus pour moi. Franchement, les belles okay. vives et moi, franchement,
regarde,
quelque chose de très beau. Quoi, regarde. Je suis un...
C'est toi.
Ok.
Waouh.
Donc, en fait, tu vois, la dame va se demander, est-ce que ce qu'il voit, ça lui plaît? Est-ce que, voilà, est-ce que c'est attractif? Est-ce que... Et puis, il y a des hommes qui ont le dada. Parfois, ils t'observent. Parfois, c'est gênant. Je te demande, il regarde quoi? Pourquoi il est en train de me regarder comme ça?
Est-ce que
c'est trop noir? Est-ce que c'est...
Après, aussi, une mauvaise expérience. C'est ce qui te mâche ça comme le finger.
Mmh. Non, c'est beau aussi.
Donc, les gars, tu as fini de mâcher. Tu as sauté le débat. Tu es dans tes souvenirs, au fait.
Alors, comment est-ce qu'on rassure justement une partenaire qui est complexée? Parce que ça arrive hein, pour les hommes. Je m'adresse surtout aux hommes qui veulent le faire, qui sont face à une partenaire qui parfois est réfractaire, mmh. dû justement à tous ces problèmes psychologiques, tous ces jugements psychologiques qu'elle se fait à elle-même. Comment, toi, l'homme, tu rassures ta partenaire pour qu'elle se laisse faire? Laisse-toi faire.
Même si tu vois que sa foufou n'est pas jolie, tu lui dis que c'est joli. Parce que parfois, tu es là, la fille a peut-être le ventre un peu redondant. La manière dont d'abord tu pousses le ventre, là, on sent que ça ne t'intéresse pas. Aie des gestes qui lui montrent qu'en fait, tu apprécies son corps. Tu vois, tu lui fais des compliments. Ah, tu es belle. Ah, elle va dire, ah non, ouais, avec mon ventre, c'est, tu dis que maman, c'est même le ventre, c'est que j'aime. Tu vois un peu, non? Tu regardes un peu sa foufoune, tu dis, ah, que c'est joli. Elle va te dire que la foufoune, c'est joli. Parce que les enfants, non, mais attends, calme-toi. Tu fais un petit bisou dessus. Il faut être tendre, c'est la tendresse.
Ok, tu veux.
Elle a fait ça.
Ok.
Elle passe à son nom, elle a fait ça. Parce que là, qu'il a mis en confiance.
Docteur, est-ce que c'est légitime pour une femme d'exiger le même investissement qu'elle donne notamment quand elle fait la fellation à un homme quand il fait le cunis?
Tu me blagues, c'est un rapport de force, mon là. Tu ne fais pas bien le cunis, on ne fait pas bien la fellation. Tu mâches, mon. Tu dis, on mâche. C'est mâchage.
Donnant, donné.
C'est ça que devait faire.
Quand quelqu'un s'appelle à te faire plaisir, tu dois rendre le même travail à la personne. Mmh. C'est comme ça. Ce n'est pas quelqu'un qui est fou plus que l'autre.
Est-ce que, docteur, dans certains couples, le plaisir oral est attendu par les femmes, hein, mais ce n'est pas toujours réciproque, malheureusement. Mmh. Est-ce que le cunnilingus peut remplacer la pénétration dans certains rapports? Pas dans certains couples, mais dans certains rapports. Est-ce qu'il y a des rapports qui peuvent être 100% oral?
Bien sûr, moi je crois qu'on en a parlé le 14 février. Par exemple, chez les femmes ménopausées, il y a dans le pour revenir un peu, voilà, justement, c'est une très bonne question. Il y avait des femmes qui disaient que la pénétration, c'était trop douloureux au début de la ménopause, tu vois. Et puis je leur ai dit, la solution, c'est de varier le type de rapport. Un jour, on fait le rapport pour monsieur. Un autre jour, on fait le rapport pour madame. Et progressivement, ça permet de détendre la musculation, donc de détendre les muscles du périnée. Tu vois, si aujourd'hui, tu as fait l'amour, le sexe oral, machin, nanana, elle s'est sentie confortable, la prochaine fois, psychologiquement, elle sera un peu plus relaxée, tu vois. Donc, il faut varier. Varier la qualité de rapport, varier les plaisirs. Tu n'es pas obligé de faire l'amour pour toi tous les jours, tu vois. Parce qu'il faut savoir que l'homme, oui, avec la pénétration, certains, il y a des hommes aussi avec qui la masturbe, ça passe. Mais voilà, vous pouvez par exemple, tu peux par exemple faire un cunis. Ensuite, tu peux, si tu veux absolument faire des va-et-vient, tu fais des va-et-vient par exemple entre les cuisses. Tu vois un peu, pour certains, ça passe. Oui, John, tu te reconnais.
Docteur, il y a beaucoup d'hommes qui disent ne pas vouloir faire le cunis à cause des problèmes médicaux. Est-ce qu'il y a des contre-indications médicales quand même avant de faire le cunis? Enfin, est-ce qu'il y a des risques?
Les hommes qui disent ça, on leur fait les fellations.
C'est ça qu'il faut demander.
Oui, allons-y.
Est-ce qu'il y a des risques médicaux?
Tu es le seul homme ici, tu vois, Lille.
Est-ce qu'il y a des risques?
Et forcément, si quelqu'un est malade, si tu veux mettre ta bouche dans toutes les, dans tous les vagins, des vagins que tu ne contrôles pas, tu sais pas avec qui la fille couche, tu sais pas où elle dort, comment elle dort, machin. Si tu veux devenir le lèche-cul de toutes les filles avec qui tu je sais pas, hein, tu dragues une fille, tu veux lécher ses fesses, c'est quoi? Tu vas tomber malade.
Tu vas en boîte, tu vas t'attraper n'importe
quoi. Tu vas lécher.
Lècheman.
Bantouzman. Bantouzman. Hein? Si tu veux devenir le lèche-cul de toutes les filles que tu. J'ai encore dit ça, sorry. Si tu veux lécher, c'est comment? Tu vas tomber malade. Médecin, tu vas tomber malade. Mais par contre, si tu as une partenaire, si c'est ta go, comme on dit, c'est ta femme, tu contrôles, voilà, son. Comment on dit.
Son hygiène.
Son hygiène, merci, son hygiène intime. Tu contrôles ses va-et-vient, vous faites confiance, tu lui fais confiance, vous lâchez, vous avez déjà vos dossiers, chacun le dossier médical de l'autre, en fait. Je sais que ma femme n'a pas de problème, elle n'a pas. Parce que le fait de lécher tout et n'importe quoi, là, parce que connais les gars qui veulent montrer à leurs amis qui sont les lécheurs pour Max. Ils voient une fille au quartier, ils disent que j'ai léché la fille. Mon papa, tu te fais du mal à toi, parce que quand tu as fini de lécher, tu as léché quand un gars venait de jouir là-bas dedans. Tu vois un peu, non? Elle ne t'a pas dit.
C'est vrai.
Quand ça sortait, elle t'a dit que non, c'est la jouissance féminine, alors que c'était le sperme.
C'est ça.
Yeah. Donc, voilà donc les pestes que tu as déjà attrapées comme ça, là.
Les pestes labiales. Merci beaucoup, docteur. La sexualité n'est pas une liste d'obligations. C'est un espace de découverte, de respect et d'écoute. Le cunnilingus n'est ni un tabou à entretenir, ni une performance à imposer. C'est une possibilité parmi d'autres qui n'a de valeur que si elle est choisie et que si elle est partagée. Merci à notre sexothérapeute docteur Nastia d'avoir été avec nous pour cet éclairage. Et merci également à vous chers auditeurs pour votre écoute ouverte et respectueuse. À jeudi prochain dans Jeudi Sexy. Merci les filles d'avoir été là.
Merci à demain.
Merci John.
Merci à vous.
Bye.
J'espère
bye.
Que vous allez vous lâcher durant les jours à venir. Et vous laisser lécher. À très vite.
Cette rubrique est disponible en replay et en intégralité sur notre site internet www.volume3media.com.